Ça roule radio avec Marc Bouchard et Guillaume Laurin. Bonjour et bienvenue sur les ondes de saroulradio.com. Ici Guillaume Laurin avec mon cher ami Marc Bouchard pour une nouvelle émission. Ça va Marc?
Ça va très bien et toi mon cher?
Ça va très bien, je suis ravi de te retrouver. On va évoquer aujourd'hui des nouveaux modèles à l'essai, on va parler un petit peu d'actualité automobile, on va parler de quelque chose qui peut ravir certains et qui moi me fait un peu peur, c'est cette conduite autonome. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais pour commencer, je crois que tu as pris le volant de nouveaux modèles, notamment du Honda Accord. C'est une voiture très attendue parce que elle est très vendue ici au Canada, et donc c'est, même si c'est une voiture assez classique, peut-être pas la plus excitante de mon point de vue en tout cas, je vais essayer de te suivre et de trouver ce qui pourrait me séduire, à commencer peut-être par la ligne qui est toujours assez réussie, je trouve moi.
Ouais, ben, tu vois, moi c'est exactement son principal défaut, c'est-à-dire que la Honda Accord qui, bon, a été refaite là, il y a 2 ans, elle continue d'évoluer légèrement, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de modifications cette année. Sauf qu'à mon sens, elle est un peu trop anonyme pour être justement performante. Et là, je m'explique. Elle est dans le créneau probablement le mieux réussi de toute l'industrie automobile. Le créneau des berlines intermédiaires, parce que la concurrence est absolument féroce. Là. Pense-y, là, tu as la Nissan Altima qui est arrivée avec un rouage intégral l'année dernière. Tu as là-dedans la Toyota Camry qui a été complètement refaite. Il y a la Mazda 6 qui est un véhicule extrêmement dynamique en conduite. Il y a la nouvelle Hyundai Sonata qui arrive à peine. Bon, l'ancienne était intéressante, la nouvelle est de haute technologie. Donc, on arrive vraiment dans un créneau excessivement compétitif et la Honda Accord doit trouver sa place là-dedans.
Oui, sans parler des Kia Optima ou encore de la future Passat, il y en a vraiment pour tous les goûts là, dans ce créneau-là.
Oui, à mon avis, c'est vraiment le créneau où les véhicules vendus sont les plus réussis, je dirais, de tout le marché automobile canadien.
Alors, tu n'aimes pas la ligne, hein, mon cher Marc. Moi, je trouvais que dans sa version sport, je crois qu'il y a une version sport, elle a un petit quelque chose qui la démarque un petit peu, peut-être.
Voilà, ben, c'est ça. C'est qu'en fait, pour aller chercher quelque chose, pour aller chercher un peu de personnalité, il faut opter pour la version sport qui ajoute quelques éléments aérodynamiques, qui est aussi disponible avec une boîte manuelle, ce qui est quand même pas inintéressant pour un véhicule de cette taille-là. Et effectivement, qui approche quelque chose, une silhouette un peu plus active. En revanche, quand on prend la traditionnelle Honda Accord, et moi, j'avais bien sûr la version Touring, là, c'est une voiture qui n'est pas LED. Et faut que je sois très clair, c'est une voiture qui est loin d'être LED, mais c'est une voiture qui ne fait pas tourner les têtes. Par exemple, prenez la nouvelle Sonata, prenez la Camry, prenez même la Mazda 6 avec son design Kodo. Ce sont des véhicules qui se démarquent vraiment de façon significative.
C'est vrai, on est d'accord là-dessus. C'est pas forcément son point fort, mais le côté anonyme de ce genre de voiture de moyenne classe peut séduire certains, je pense.
Oui, d'une part. Et d'autre part, ce n'est qu'un seul petit défaut dans une voiture qui, autrement, n'a vraisemblablement que des qualités. Honnêtement, j'ai été très impressionné de ce véhicule. Bon, réglons la chose tout de suite. C'est pas une voiture sportive. Hein? Je pense que personne s'attend à conduire une Honda Accord et à faire comme un muscle car. C'est une auto qui est tout à fait honnête, qui est tout à fait homogène, qui est tout à fait équilibrée, qui est confortable, qui arrive malgré tout avec une puissance intéressante. Moi, j'avais la version Touring avec le 4 cylindres 2 litres turbo, 252 chevaux, 273 livres-pieds de couple, boîte automatique 10 rapports. C'est une auto qui est honnête et qui est assez nerveuse pour être agréable. Elle est aussi, surtout, je pense, amusante à conduire. Ben, amusante. On va se calmer, là. On est encore dans un créneau quand même de voiture un peu passe-partout, je dirais.
Oui, bien sûr.
Mais de la gamme, elle est, à mon avis, deuxième derrière la Mazda 6 en termes de plaisir de conduite. Parce que les suspensions sont vraiment bien adaptées, la direction est extrêmement précise. C'est une voiture qui joue beaucoup aussi avec sa transmission 10 vitesses, c'est-à-dire que souvent, dans les transmissions qui ont trop de rapports comme ça, on a l'impression parfois que... je dirais la transmission apprend presque à compter. C'est-à-dire qu'elle change de vitesse trop régulièrement et ça devient problématique. Or, dans le cas de la voiture qui nous préoccupe, ça n'a vraiment pas été le cas. C'est une auto qui, honnêtement, s'est très bien déroulée et qui s'adapte bien à toutes les conditions, même aux accélérations les plus violentes.
Alors, on est d'accord, on n'achète pas une Honda Accord pour le côté sexy. Peut-être que celle-ci est un petit peu trop sage, mais on va se tourner plutôt sur le modèle si on recherche la solidité légendaire de Honda, le sérieux de la marque. Quels ont été, j'allais dire, les faits saillants qui t'ont sauté aux yeux quand tu as pris le volant de ce véhicule, mon cher Marc?
D'une part, comme je l'ai dit, la précision de la direction. Ça, définitivement, c'est un élément intéressant et de grande qualité du côté de la Honda Accord. Autre élément aussi intéressant, c'est l'habitacle qui est vraiment confortable et spacieux, qui nous permet donc d'avoir une expérience de conduite en gang, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de place pour les occupants arrière aussi. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est confortable pour accueillir des gens. Et un système multimédia qui est beaucoup plus ergonomique qu'il ne l'était, donc qui permet donc d'avoir certains éléments plus faciles à consulter. Ça ne demande pas un diplôme en ingénierie là, pour être capable de brancher son téléphone, ce qui est en soi une bonne nouvelle.
Et c'est vrai que quand on regarde le tableau de bord, il est plutôt épuré, on peut y retrouver ses petits assez facilement. Il y a un bel écran d'une taille respectable. Bref, on retrouve à peu près tous les éléments que l'on attend sur un tel véhicule, un véhicule intelligent, mais peut-être donc quelle sera la suggestion que tu ferais, Marc, sur ce créneau-là, si on a combien on a? Il faut 38 000, 40 000 $?
Ben, ça dépend en fait de la version. Ma version à moi valait à peu près près de 40 000 $.
C'est ça.
Mais je le répète, c'est l'une des plus équipées de toute la gamme. En revanche, il y a des versions beaucoup moins dispendieuses, mais qui arrivent aussi avec un moteur 4 cylindres 1.5 litres, qui lui a eu sa part de difficultés au cours des années, mais qui s'est depuis bien amélioré. Et il y a aussi, il faut le rappeler, une version hybride là, de la Honda Accord. Bref, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est intéressant, qui est bien équilibré. C'est un véhicule qui a gagné de nombreux prix dans sa catégorie et qui les mérite bien, à mon avis, qui est tout à fait compétitif avec les autres et qui, tu l'as dit, fait affaire notamment grâce à sa fiabilité, grâce à la qualité d'assemblage. Donc, on a un véhicule qui est agréable, qui est bien pensé. Est-ce que ce serait mon premier choix? Je t'avoue que je suis un peu un amateur de nouveautés, donc j'irais probablement explorer du côté des Coréens un peu, mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est extrêmement bien réussie.
Bon, alors, tu ne m'as pas fait vraiment rêver avec ce premier véhicule, Marc, même si il est plutôt sympathique, hein, on va pas se mentir. La deuxième voiture à l'essai aujourd'hui, c'est...
Tu sais, Guillaume, avant d'aller plus loin, il faut préciser, l'automobile, c'est pas toujours du rêve. Ça peut être parfois très rationnel aussi.
Non, on est d'accord. Il faut savoir rester raisonnable et sur un véhicule comme une berline intermédiaire, je pense que le Honda Accord est un juste choix pour un juste père de famille, un bon père de famille. Le nouveau véhicule dont on va parler par la suite, là encore, on parle d'un véhicule qui peut distiller beaucoup de plaisir, mais ce qui m'ébouriffe un petit peu, c'est que c'est un diesel. Est-ce que tu vas arriver à me faire changer d'avis sur le diesel, Marc? C'est le GMC Sierra diesel, le nouveau modèle, alors le pick-up venant d'Europe. Moi, je dois t'avouer que ce genre de, ce que vous appelez ici des camions, c'est quelque chose de complètement inconnu chez nous et c'est un petit peu surprenant, mais c'est toujours un véhicule très très populaire ici.
Moi, c'est un véhicule que j'adore. Écoute, c'est probablement lié à mon développement physique, mais j'aime les gros véhicules. Évidemment, tu auras compris que ce n'est pas nécessairement strictement un besoin d'espace. C'est probablement mon petit côté macho aussi qui fait que j'aime bien être dans un véhicule de grand format. Et là-dessus, ben écoute, le GMC Sierra Elevation, je vais t'expliquer pourquoi Elevation plus tard. fait partie de ceux que j'ai bien aimés. Il faut savoir, tu as raison, ce sont des véhicules de grande dimension. C'est une catégorie qui est extrêmement populaire. On le sait, bon, chez nous, le Ford de série F est le plus gros vendeur, mais parmi les très gros vendeurs, le GMC Sierra n'arrive pas très loin. Ce qui est un peu étonnant, en fait, parce qu'au Canada, le GMC Sierra se vend plus que le Chevrolet Silverado,
alors, qui est pourtant son frère. Ça, c'est intéressant. Et ils sont cousins. Et quelles sont les différences majeures, finalement?
En fait, objectivement, il y a des différences au niveau des définitions, des groupes d'options, des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, ce sont des véhicules qui sont à peu près similaires, qui utilisent les mêmes mécaniques, qui sont construits sur la même plateforme. Il y a des petites différences parce que, par exemple, on va regarder des capacités de remorquage qui peuvent être un peu moindres du côté de GMC parce qu'on ajoute plus d'options de luxe. Donc, ça va jouer un peu là-dessus, mais on parle de quelques centaines de livres tout au plus. Donc, dans l'ensemble, ce sont les mêmes véhicules, mais aux États-Unis, on aime beaucoup le nom Chevrolet. Ouais. Au Canada, on préfère celui de GMC.
GMC est traditionnellement positionné légèrement plus luxe que Chevrolet, hein, c'est ça?
Exactement. Alors, donc, chez nous, donc, c'est un véhicule qui est plus populaire. Et, tu as mentionné la version diesel. Moi, je suis obligé de te dire que j'étais comme toi. Non, c'est pas vrai. J'étais quand même curieux de voir ce qu'était le diesel. Je n'ai pas ébouriffé, comme tu l'as mentionné, quand on m'a précisé que c'était le moteur diesel. Mais le 3 litres Duramax que j'ai eu l'occasion d'essayer est un moteur qui, ma foi, m'a beaucoup, beaucoup surpris. C'est un moteur qui délivre quand même 277 chevaux, ce qui peut sembler un peu petit, je te dirais, mais il y a 460 livres-pieds de couple.
Ah oui, là c'est un sacré rendement, surtout pour un 3 litres, hein, quand même, c'est assez étonnant. On est sur un 6-cylindres, bien sûr.
Oui, on est sur un 6-cylindres, donc un véhicule qui, de ce point de vue-là, ma foi, s'est avéré très dynamique, très nerveux, tu t'en doutes, parce que le couple, les gens ont tendance à négliger. Alors là, vous entendez notre co-animateur qui, de temps en temps, fait une apparition comme ça, c'est mon chien, je suis désolé. Mais alors, comme je disais, c'est que le couple, bien entendu, va nous aider à avoir des accélérations plus rapides et à maximiser les capacités de performance au niveau du remorquage, notamment.
Ouais, ton chien est enthousiaste par le couple de ce Sierra. C'est sûr que c'est un des gros points forts là, du diesel. On arrive dans des couples quasiment comparables au gros V8.
Exactement. C'est qu'en fait, on dépasse même un peu, dans ce cas-ci, le V8. Qui vient normalement avec le GMC Sierra. Donc, c'est vraiment étonnant de ce point de vue-là, puisque le V8 propose 360 chevaux, mais 380 livres-pieds de couple. Donc, il est moins puissant en termes de couple. Ah ouais. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un ajout intéressant, d'autant que, il faut le préciser, on ne parle plus des diesels bruyants, fumants, que l'on connaissait dans le passé. Là.
On a ajouté un plus de plaisir, on a presque un rugissement qui ressemble parfois à un moteur essence.
Ben, et dans ce cas-ci, tout à fait. Et comme tu l'as mentionné, le GMC Sierra est un peu plus luxueux. Le Elevation, c'est aussi un véhicule assez luxueux. Ce n'est pas le plus luxueux de la gamme. C'est le deuxième, si tu veux, hein, en matière de luxe. Mais c'est quand même un véhicule qui est bien conçu, qui est bien pensé, qui est totalement équipé, bien sûr, au niveau de tout ce que tu veux comme système électronique, comme compatibilité avec les téléphones intelligents, comme compatibilité Internet aussi, parce que si tu prends un abonnement, ça peut te servir de réseau Wi-Fi, si tu veux, pour brancher tes appareils. Bien sûr, il y a tout ça. Il y a aussi la fameuse transmission qui va très bien aussi dans ce monde-là. Et il y a des options qui peuvent s'ajouter selon ce que l'on veut. Là. La façon, en fait, par exemple, dont la porte de la boîte arrière, ouais. On peut avoir ce qui s'appelle le Multipro. Le Multipro, en fait, c'est une portière qui s'ouvre dans six façons différentes pour favoriser l'accès à bord et favoriser l'usage maximal de l'espace. Alors, c'est vraiment un truc qui est assez unique chez GMC, qui est chez GM, en fait. Ouais, ouais. Et honnêtement, c'est une belle réussite. Donc, dans l'ensemble, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. Bien entendu, les dimensions sont imposantes. J'aurais aimé qu'il ait un marchepied. parce que malheureusement, mon développement a été davantage horizontal que vertical, ce qui fait que pour me glisser à bord, c'était parfois un peu aventureux, et surtout pour en descendre, parce que là, évidemment, je devais littéralement me laisser glisser au bas du véhicule, ce qui est un peu un problème, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est fait pour à la fois le travail, et ça, il est tout à fait capable, et à la fois, je dirais, le confort et servir de véhicule de famille, si l'on veut. Et de ce point de vue-là, il est absolument spectaculaire, rien à redire.
Si je comprends bien, le GMC Sierra mérite bien son nom de élévation s'il est aussi au perché sur roue. Et tu ne m'as pas expliqué exactement la raison de ce nom, de ce sous-titre.
Ben, en fait, l'élévation, c'est devenu, chez GMC, une division, une version, en fait.
D'accord.
On ne voulait pas, parce qu'il y a toujours les Denali, qui sont les très, très haut de gamme,
ouais.
Et il y a les SXT, qui sont les bas de gamme. On cherchait un moyen terme qui était capable de regrouper un certain nombre d'options, je dirais, de plus de luxe, sans tomber dans l'excès, et c'est ce qu'on a fait avec l'élévation. L'élévation qui se retrouve non seulement du côté du Sierra, mais aussi dans d'autres véhicules GMC. Là. La famille GMC complète est maintenant capable d'utiliser cette appellation-là pour ces véhicules. Il y a une version élévation dans presque tous les modèles GMC maintenant.
Et finalement, pour ce type de grand véhicule pick-up, la version diesel fait sens. Est-ce que à la pompe, cela se vérifie aussi, Marc?
Ben, écoute, bien entendu, dans les circonstances, quand je l'ai conduit, on était dans la neige, puis je me suis amusé parce qu'il y a un rouage intégral, bien entendu, que l'on peut contrôler, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en mode automatique, mais on peut aussi le verrouiller en mode 4 roues motrices ou en mode 2 roues motrices au besoin. J'ai quand même eu de la consommation qui était supérieure à 12 litres au 100, mais j'ai fait aucun effort. Je dois quand même préciser, je sais que c'est pas la même compagnie, mais un moteur diesel 3 litres d'une autre compagnie, j'avais fait la distance entre Montréal et Niagara Falls, entre autres, et j'avais maintenu sur autoroute une moyenne de 8,1 litres au 100. Donc, je pense que oui, le diesel fait sens dans ce type de véhicule-là. Bien sûr, on paye le prix, hein? On parle quand même de plusieurs milliers de dollars, 5 à 7 000 dollars de plus pour avoir le moteur Duramax selon la version que l'on choisit. Parce que là, je ne parlerai pas de prix parce que un camion comme celui-là part de 40 000 $ jusqu'à 90 000 $ selon ce que l'on met dedans, le type de boîte, le type de ci, le type de ça.
Ouais.
Mais on parle en termes de diesel, 5 à 6 000 $ de plus en moyenne pour avoir un moteur Duramax.
Alors, c'est un véritable véhicule personnalisable à l'envi que ce GMC qui va permettre effectivement à la fois de travailler et de l'utiliser pour les loisirs, tracter des bateaux, des motoneiges, tout ça. Par rapport à ses concurrents, en deux mots, Marc, tu le situes comment ce GMC?
Ben, tu vois, c'est clairement, c'est difficile d'établir vraiment une différence. Dans les camionnettes de cette nature-là, moi, je pense que c'est question de choix très personnel. Moi, j'aime bien le GMC Sierra, mais bon, il y a des choses que j'aime moins. J'aime mieux le Sierra que je vais aimer le Silverado. Donc, il se place très bien. Au niveau des performances, écoutez, on est rendu à quelques centaines de livres de nuances de l'un à l'autre. Là. Je pense que c'est vraiment une question de choix. Moi, le Sierra serait peut-être pas mon premier choix, mais ce serait loin d'être mon dernier, en tout cas dans la catégorie, c'est certain.
Une voiture solide et assez bien finie, luxueuse, une belle cabine de ce Sierra Elevation. On va marquer, je pense, une petite pause, Marc, avant de retrouver les nouvelles du front en matière d'automobile et de parler également de ce phénomène qui va arriver très prochainement dans nos rues, dans nos vies, ces voitures totalement autonomes. De retour pour la deuxième partie de l'émission Ça roule Radio. Vous nous suivez sur les ondes de sportradio.ca, Radio Média Plus et bien entendu sur la page Ça roule Radio. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et toutes les plateformes et télécharger toutes ces belles émissions avec Marc Bouchard. Je suis toujours en compagnie de Marc pour parler maintenant d'actualité. Marc, actualité automobile, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce que tu as noté?
Ben, en fait, il y a des choses, différents événements qui surviennent, mais un qui a retenu mon attention, c'est la contribution de la compagnie Rivian, au développement des voitures électriques chez Ford et chez Lincoln. on le sait, la compagnie Rivian est celle qui devrait sous peu nous présenter une camionnette pick-up. Je sais, tu n'aimes pas les camionnettes pick-up, mais celle-là sera 100% électrique.
Ce n'est pas que j'aime pas, c'est que c'est tellement étranger à ma culture automobile que je dois prendre un temps d'adaptation. Mais si tu me fais faire un tour, peut-être que je vais changer d'avis.
Je m'organiserai pour ça. Mais tout ça pour dire que bon, Ford et Lincoln ont investi 700 millions de dollars dans cette compagnie-là pour arriver à développer une technologie particulière. Or, on vient de confirmer, il y a quelques heures à peine, que c'est Rivian qui va aussi collaborer dans l'autre sens, c'est-à-dire que Rivian va utiliser sa technologie pour développer le premier véhicule électrique de Lincoln.
D'accord.
Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait que Rivian est déjà passablement avancé dans ce monde-là. On sait que Lincoln veut se développer, a présenté récemment des véhicules branchables, hybrides branchables, dans certaines catégories. Et là, on nous dit qu'on aura un véhicule 100% électrique qui pourrait être, bien entendu, un VUS, puisqu'on le sait, on n'est pas exactement dans le monde de la voiture de ce temps-ci chez Ford et chez Lincoln. On n'a pas de données de date encore quant à la production de ce véhicule-là. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il sera là bientôt. On sait que bon, Ford a présenté la Mach-E, la fameuse Mustang oui. qui a tant fait jaser. Alors, on peut estimer que probablement, d'ici quelques mois, Lincoln va avoir sa propre version de, si on veut, là, d'un véhicule électrique. Ce qui serait une bonne chose en soi. Mais bon, bien sûr, on verra ce que ça va donner. Il n'y a rien de confirmé pour le moment. On n'a pas plus de détails que ça.
Voilà, un tout électrique, peut-être chez Lincoln, c'est une bonne chose parce que c'est un marché qui est en expansion. Hein.
Exactement. On est vraiment là. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Tout le monde le fait, même si c'est toujours moins de 1,5% du marché. Les véhicules électriques ont de l'importance et je pense que tout le monde doit se diriger là-dedans.
C'est le sens du progrès, mon cher Marc.
Exactement. Dans la série des autres nouveautés, du côté de chez Fiat Chrysler, on s'était fait un peu damer le pion du côté du système multimédia. On a toujours dit que le système U-Connect qui était chez Chrysler était l'un des meilleurs de l'industrie. Or, depuis quelque temps, on avait un peu passé, je dirais, deuxième derrière plusieurs autres, notamment les Coréens qui arrivent avec des nouveaux systèmes et notamment Ford, qui a présenté le système Sync 4, qui a été présenté au CES notamment et qui va faire son apparition sur différents modèles en cours d'année et qui vraiment était une évolution assez importante, notamment au niveau des commandes vocales. Or, FCA vient de dire, ben écoutez, on s'en laissera pas imposer et on dévoile le U-Connect 5, qui est la nouvelle génération du système. Pourquoi je vous en parle? C'est simplement que de plus en plus, ces systèmes-là intègrent bien sûr tout ce qui est multimédia, là, on le sait, tout ce qui est système de navigation, système audio et tout ça.
Ouais.
Mais il y a aussi de plus en plus de trucs qui concernent directement la connectivité, bien entendu, comment vous pouvez agir avec votre téléphone intelligent et surtout d'autres trucs complètement fous. Imaginez, on est rendu entre autres chez Ford, on va avoir un écran de 15,5 pouces. Chez Chrysler, on a été un peu plus raisonnable avec un écran de 12,5 pouces. On dit que la plateforme est 5 fois plus rapide, qu'elle a maintenant un système d'exploitation Android qui permet d'avoir plusieurs interfaces et surtout qu'on veut intégrer davantage des commandes pour éliminer un peu une partie de la nécessité du conducteur de regarder vers l'écran. On veut que ce soit plus intuitif, on veut que ce soit plus facile pour éviter que les conducteurs ne quittent la route des yeux le plus longtemps possible. Donc, on essaie vraiment, en utilisant notamment les assistants personnels, chez Chrysler, on va utiliser par exemple Alexa pour être en mesure là, de trouver une façon de faire qui devrait permettre d'être, disons, plus efficace à ce niveau-là.
Alors, un écran toujours plus intelligent pour qu'on le regarde de moins en moins, si je comprends bien ce U-Connect de chez Chrysler. C'est bien sûr un système qui va fonctionner avec tous les Android et autres.
Oui, exactement.
Est-ce que on parle déjà de 5G avec ce genre de système?
On dit qu'il est compatible 5G, mais qu'il n'est pas encore implantée au niveau 5G, là. Parce qu'on le sait, la technologie au Canada 5G n'est pas définitive. On ne sait toujours pas si certaines compagnies auront accès ou pas au 5G, ou AE pour ne pas la nommer. Alors évidemment, on est toujours dans ce type de choses-là.
Bon, en tout cas, Uconnect va certainement remettre Chrysler dans les premiers rangs là, des voitures les plus intelligentes du moment. Quoi d'autre, cher Marc?
Ben, écoute, on ne peut pas parler d'actualité sans parler de Tesla.
Et oui.
Je pense que Tesla fait partie de l'univers automobile de plus en plus. Or, Tesla a toutes sortes de nouvelles au cours des derniers jours, des dernières semaines. Premièrement, c'est une compagnie qui a atteint les 100 milliards de capitalisation boursière. C'est énorme. Elle devient la deuxième plus importante compagnie automobile sur la bourse en termes de capitalisation boursière.
C'est assez ahurissant d'ailleurs comme nouvelle parce que il y a pas si longtemps, beaucoup prédisaient la fin pure et simple de Tesla.
Mais attention, ça ne veut rien dire.
Explique-nous,
parce que... Je suis obligé de te rappeler qu'on a eu des histoires tristes comme Nortel, par exemple,
ouais.
Où les actions ont monté à 300 ou 400 $ et sont redescendues à 62 sous aux dernières nouvelles.
C'est ça.
C'est parce qu'il faut faire attention, hein, parce que la capitalisation boursière, elle est basée sur l'intérêt, la confiance des investisseurs et non pas sur la valeur réelle de la compagnie. Parce qu'actuellement, la compagnie ne dispose que de très peu d'infrastructures réelles, très peu d'infrastructures physiques et mise totalement sur sa réputation. Donc, s'il rencontre le moindre problème en cours d'année, bien, ça pourrait rapidement chuter et on sait que, bon, quand une action chute rapidement, bien évidemment, c'est une perte importante. Donc, parce que, écoutez, faut être réaliste, là, à 100 milliards de dollars, Tesla est plus gros en capitalisation boursière que ne l'est GM ou que ne l'est Ford, par exemple.
Ce qui n'a vraiment aucun sens quand on pense à tous les actifs de ces constructeurs historiques.
Exactement. Sauf qu'il faut savoir que si Elon Musk est capable de garder... La capitalisation boursière au-delà de 100 milliards pendant 6 mois, ben, il a droit à un bonus de 2,5 milliards, si je me souviens bien.
Oh, ah oui.
Alors, là, évidemment, vous comprendrez qu'actuellement, il prend pas vraiment de salaire à l'intérieur de sa compagnie,
ouais.
Mais il y a peut-être intérêt à gonfler un peu la capitalisation de ce point de vue-là. Ceci étant dit, il y a quand même des bonnes nouvelles du côté de Tesla, ça s'en est une, mais il y en a une autre, puisqu'il semble que la Tesla Model Y, le fameux petit utilitaire sport qu'on nous promet depuis un bout de temps, ben, il pourrait arriver aussitôt que dans 2 semaines.
Oh,
ce qu'on dit, en fait, c'est que... Tesla a déjà fourni à la NHTSA, qui est l'organisme américain qui gère ce genre de truc-là, le décodeur de numéro d'identification du véhicule, le fameux VIN là, dont on parle. Ben, chaque compagnie doit fournir un décodeur qui va avec les numéros de production. Or, il a déjà été fourni à la NHTSA. Normalement, c'est dans un délai relativement court que par la suite commence la production officielle.
Donc, tout pour faire simple, la voiture a passé tous les tests, elle est homologuée.
Exactement, et on a maintenant l'autorisation d'avoir un numéro. Sauf qu'évidemment, tout n'est pas aussi simple, puisque du côté de la NHTSA, on a rappelé aussi que Tesla était sous le coup de 2 enquêtes. Un procès pour quelqu'un qui serait décédé dans un accident à cause de la voiture autonome.
Ouais.
Mais ça, évidemment, ça reste à prouver. Le deuxième, et là, ça reste à voir encore une fois, parce que ça sent la magouille un peu, mais il y a eu des plaintes à l'effet qu'il y aurait des véhicules Tesla qui accéléreraient de façon impromptue, sans être sollicité.
Ouais.
Évidemment, ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, il y aurait 123 véhicules concernés, 127 consommateurs qui se sont plaints. Le problème, c'est que le premier qui est à l'origine de tout ça est un monsieur Brian Sparks, qui est un investisseur malheureux chez Tesla.
D'accord.
Alors,
oui,
alors
peut-être...
Ouais. En bon français, on appelle ça un inside job.
Il y a peut-être un petit peu d'amertume derrière tout ça. Mais la transition va être toute trouvée avec la suite de l'émission, cher Marc, parce que tu nous parles de cette compagnie et de son leader charismatique avec ses coûts publicitaires formidables et également ses hauts et ses bas qui font tourner la tête avec ces chiffres assez incroyables dont tu nous as parlé. Mais justement, Tesla, c'est un des parangons de la conduite totalement autonome qui devrait être bientôt offerte d'après Elon Musk lui-même. Pour moi, personnellement, il s'agit peut-être d'abord de l'anti-plaisir automobile, l'anti-plaisir de conduite. Hein, on est comme dans un train ou comme dans un avion. Et puis, surtout, il faut faire confiance absolument à la technologie. Et on le voit, peut-être qu'il y a encore là quelques progrès à faire. Mais Tesla n'est pas le seul constructeur sur les rangs. Et je crois que tu as tout un article à nous proposer.
Ouais, ben en fait, c'est Cadillac qui, cette semaine, a annoncé que ces prochaines générations de voitures qui vont arriver d'ici quelques mois, là, la CT4, la CT5, vont présenter le système Super Cruise 2.0. Qu'est-ce que c'est le Super Cruise? C'est un système d'aide de conduite semi-autonome qui permettait déjà actuellement, sur la CT6 notamment, de lâcher le volant et de se diriger en ligne droite sur autoroute sans difficulté. Donc, la voiture restait au centre. Elle aussi déterminait sa propre distance par rapport au véhicule qui précède de façon à garder une distance sécuritaire en permanence. Okay? Ouais. Ça fonctionne déjà. Et la différence avec les autres compagnies, c'est que on pouvait, avec Cadillac, tout simplement lâcher les mains et laisser la voiture se conduire toute seule.
C'est ça.
Alors que dans d'autres cas, prenons Mercedes, prenons d'autres compagnies, il faut, après 15 ou 30 secondes, ramener les mains sur le volant parce que sinon, le système va finir par se désactiver de lui-même après vous avoir lancé des alarmes lumineuses et sonores.
Oui, bon, est-ce que ça fait partie de ces projets où le volant se rabat carrément?
Non, pas encore.
Okay.
La deuxième, là, ce qu'on dit, c'est qu'on va nous amener le Super Cruise 2.0. Le 2.0 va en fait être une espèce de pilote automatique, mais pour autoroute seulement. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand on va aller en ligne droite, le véhicule va être en mesure de garder son chemin, de garder la bonne distance de façon sécuritaire. Mais quand on va désirer faire un changement de voie ou un dépassement, il va suffire d'actionner le clignotant dans la direction souhaitée, et la voiture va faire d'elle-même la manœuvre.
Wow, ça paraît du domaine de la science-fiction, tout ce que tu me racontes là, ma chère.
Je t'avoue que je suis un peu comme toi, par contre, au niveau des inquiétudes, je ne suis pas nécessairement très rassuré quant à tout ça. Je dois te dire cependant que c'est bon, ça existe déjà chez Tesla, on le dit. La différence, comme je l'ai dit encore, c'est que la voiture, elle n'a pas besoin d'intervention humaine outre le clignotant que l'on a mis, alors que chez les autres constructeurs, on exige toujours une certaine forme d'attention de la part des individus. Alors ça, déjà, c'est quelque chose qui me dérange un peu de ce côté-là. Mm-hmm. L'autre élément, c'est que Cadillac n'est pas le seul. Bien sûr, là, eux vont le faire d'ici quelques mois, ils seront donc les premiers, mais Volvo a aussi annoncé cette semaine, par exemple, la présence ou la venue d'un nouveau véhicule électrique, le XC90, qui sera l'an prochain complètement refait et qui va être doté du même genre de système.
Alors, c'est un système qui, sans rentrer trop dans le détail technique, fonctionne grâce à des capteurs, des caméras, des radars. Comment est-ce que ça marche exactement?
Ben, c'est un peu tout ça, en fait. Et il y a une partie de la technologie qui est basée sur le LIDAR, qui est une forme de radar avec des ondes sonores qui permet aussi de voir dans la noirceur. Ça, c'est important parce que tu auras compris qu'évidemment, quand il fait noir, les caméras ne sont pas suffisantes pour voir les lignes, entre autres. Donc, le LIDAR permet cette vision-là dans l'obscurité. C'est déjà en soi une nette amélioration. On verra cependant comment ça va s'appliquer. Moi, ça me dérange parce que, encore une fois, ça laisse à la voiture un peu trop de latitude. Je suis comme toi un peu inquiet à cet effet-là. Je suis tout à fait favorable à certains éléments d'aide à la conduite, comme c'est le cas dans d'autres compagnies. Par contre, j'aimerais que l'on implante dans ces voitures-là, comme Subaru l'a fait, par exemple, ce qu'on appelle le driver focus. Driver focus, c'est une caméra qui regarde le conducteur et qui détermine si les yeux sont sur la route ou pas. Et si les yeux sont trop longtemps à l'écart de la route, ben, il y a une alerte encore une fois et la voiture ne vous laisse pas aller. Là.
Et cela évite certaines situations, comme on l'a vu, ces vidéos virales sur le net avec des conducteurs endormis au volant de leur Tesla en train de rouler à 100 km/h sur l'autoroute. Est-ce que tout ça fait un petit peu peur?
D'ailleurs, est-ce que tu avais vu la poursuite policière à cet effet-là?
Et oui, absolument. Le conducteur qui ne réagissait pas, profondément endormi. J'avoue que c'est évidemment quelque chose qui peut sembler pratique, mais moi personnellement, j'ai encore beaucoup d'inquiétudes et il va falloir me convaincre. Je pense aussi que du côté des assurances, on doit observer de très près ces nouvelles technologies.
Assurance et responsabilité, parce que rappelle-toi, qui est responsable d'un accident dans le cas où la voiture heurte quelqu'un?
Mais oui.
Est-ce que c'est le conducteur parce qu'il ne regardait pas? Est-ce que c'est le manufacturier parce qu'il a fourni un système qui n'était pas efficace? Bref, il y a tout un débat là-dessus et il y a tout un débat moral qui va devoir être fini un jour concernant, entre autres, les décisions prises par la voiture. Parce que dans des moments serrés, la voiture va devoir prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences tragiques, mais elle doit avoir été programmée par des ingénieurs. Donc, il y aura des ingénieurs qui, en amont, vont devoir avoir pris des décisions au nom des consommateurs. Et ça, peut-être que ça peut poser d'autres problèmes.
Et on sera certainement aussi amené à passer des nouveaux types de tests et des nouveaux permis de conduire. Moi, quand je passais mon permis en France, il y a de cela pas mal de temps déjà, je dois l'avouer, la première règle, c'était tout simplement qu'on doit toujours rester maître de son véhicule. Alors, si c'est le véhicule qui est maître de vous, qu'est-ce que ça fait de vous?
Exactement. Alors évidemment, il y a toutes sortes comme ça de questions qui vont se poser au fil des mois et des années qui arrivent. Honnêtement, je ne pense pas que la voiture 100% autonome, c'est pour demain, mais des voitures qui sont de plus en plus autonomes, il semble que ce soit pour bientôt.
Eh bien, en tout cas, mon cher Marc, on arrive déjà à la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de conclure?
Non, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Bien sûr, on s'excuse d'avoir été absent la semaine dernière. Ce sont des choses qui arrivent et on espère que vous serez avec nous la semaine prochaine, mon cher Guillaume.
Absolument. Et comme d'habitude, on vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous écouter sur les ondes de sportradio.ca, Radio Média Plus, et bien sûr sur la page saroule-radio.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, sur toutes les plateformes Apple, Google, etc. Et puis, si vous voulez nous écrire, nous contacter, c'est info@saroule-radio.com.